t'aimes le vivant, récolte l'urticaire.
Qui s'aime le vivant, récolte l'urticaire.
Bienvenue pour une nouvelle émission mensuelle qui veut parler d'écologie en collant bord à bord des bouts d'histoire. Des histoires de végétaux, de champignons, d'insectes, de vertébrés et de toutes les petites bêtes du monde microscopique. Ce seront des récits des trajectoires de nos compagnons non humains, vivants, proliférants ou menacés, qui s'entremêlent à nos mondes d'humains pour les chambouler, s'entrepercuter ou pour leur plus grand malheur. En m'inspirant librement des méthodes de l'ethnobiologie ou de l'histoire environnementale, je veux t'emmener explorer les marges de nos mondes civilisés, leurs coulisses et leurs artères vitales. Il s'agit pour nous de nous laisser glisser le long du fil de mon enquête qui tente de suivre des signes, des pistes, des traces, bref, des histoires de trucs vivants qui nous racontent des choses sur nos vies à nous, nous qui sommes vivants sur une planète vivante, remplie de vie.
Récolte l'urticaire.
Aïe, aïe, aïe.
Pour cette première émission, je me suis intéressée à le ou la mérule, selon, on peut la nommer elle ou lui. C'est la mérule pleureuse, un champignon filiforme et spongieux qui se nourrit de la cellulose, donc qu'on trouve dans le bois mort, dans le papier ou dans les cartons. Il ne digère pas la lignine du bois qui se craquelle sous l'action du champignon et forme ce symptôme qui le caractérise, une décomposition cubique du bois. Là où le mérule est surnommé le cancer du bâtiment. Et lorsque les charpentes de nos maisons sont attaquées, ça produit de très gros dégâts. Yel menace nos intérieurs civilisés, nos terriers d'humains en somme, et peut mettre à terre nos maisons. Sur toute la frange tempérée du globe, ce champignon menace les maisons. Pourtant, ce champignon est très peu visible dans l'environnement et il observe une répartition géographique plutôt lacunaire. On l'en retrouve dans les forêts de République tchèque, dans certaines forêts de Californie et dans celles de l'Himalaya. Et cette répartition est assez étrange. C'est un champignon qu'on ne trouve quasiment que là où il y a des humains, dans les maisons. Personnellement, j'ai rencontré ce champignon dans le Cher, dans le département 18. C'est dans une région du centre de la France qu'on surnomme le Berry. C'est un beau jour de printemps 2021 et c'est un jour de travaux. Ce jour-là, il nous faut abattre le faux plafond d'une maison, au moins centenaire. C'est des amis qui viennent de la récupérer pour en faire une maison collective. Et cette émission, elle leur est dédiée. Tapis entre le placo du plafond, du rez-de-chaussée de cette maison et le sol du premier étage, on découvre une mousse cotonneuse qui se répand en taches dégoûtantes, d'un diamètre de 3 mètres de large. Le spectacle est affligeant et même plutôt terrifiant. Un certain nombre des poutres et des solives semblent pourries jusqu'à la moelle. Après le gros coup de déprime, vinrent de nombreux travaux d'envergure pour tenter de sauver ce bâtiment. Et selon une suite assez originale et peu logique, c'est seulement une fois que les travaux sont bien engagés que, durant l'hiver, ses amis font appel au service d'un diagnostiqueur de mérule. Spoil alert, in fine. Ce n'est pas la mérule qui avait attaqué ce bâtiment. Ce diagnostic a comme libéré la maison de mes amis d'un sort qui la hantait. Et les projets ont de nouveau refleuri, la maison a repris vie. Ma trajectoire de vie personnelle a croisé celle d'un représentant, bien que seulement supposé représentant, de cette espèce du champignon mérule. Cela m'a rapproché comme jamais des trajectoires de mes amis et de leurs projets, mais aussi de celle de ce champignon, en quelque sorte, puisque j'ai été happée par l'histoire de conquête planétaire qu'est l'histoire de ce champignon. une histoire pleine d'angoisse et de tragédie. En fait, une autre histoire de la globalisation. Avant de raconter cette histoire, je t'invite dans le Berry à la recherche des traces et des indices de la mérule.
Et ça, là, du coup, c'est quoi comme trace ?
Ça, c'est du Capricorne. Hein. Ça, oui, ça, c'est les galeries. Hein, que la petite larve, parce que c'est pas l'insecte lui-même, hein, c'est la larve du Capricorne qui mange le bois, qui s'installe. Et ça, c'est normal, hein, c'est pas... Il est beaucoup moins grave que la mérule.
Tout est mieux que la mérule, quoi.
Oui, alors,
Donc là, vous voyez, ça, c'est l'aération.
Parce qu'on est des régions calmes, parce que le termite est peut-être plus grave que...
Que la mérule ?
Bah, c'est aussi grave, je veux dire, c'est pareil, mais... C'est quelque chose, effectivement... Il y a eu effectivement un champignon ici aussi, hein.
Mais le bois au-dessus, il a l'air bien, non ?
Ouais. Bah oui, c'est pour ça. Ça serait la mérule... Ça serait plutôt un autre champignon, à mon avis, c'est le cognefort des caves.
C'est pas très gentil non plus, les cognefort.
Si, c'est rien à voir. Beaucoup moins invasif. Dès qu'on l'assigne un petit peu l'environnement, ça disparaît ou ça ne progresse plus. Et ça se propage pas autant. Ça n'a rien à voir. Donc c'est beaucoup moins grave. Mais en Amérique, c'est quand même très spécifique. C'est quand même une vilaine bête. Mais bon, ça c'est la petite vrillette, ça, oui. En tout cas, les capricornes, vous avez vu, c'est ceux qu'on a là-bas qui sont beaucoup plus...
Ah oui, effectivement.
C'est plus gros. Voilà, tiens. On voit la différence quand même, vous voyez. Et puis c'est moins nombreux, il y en a, voilà, c'est pas du tout pareil. Mais ça, il y en a dans toutes les maisons, il y en aura partout. Hein. S'il y a présence d'insectes, on a ce qu'on appelle les vermoulures. Les vermoulures, ce sont les déjections des animaux. Donc là, justement, il y a eu des capricornes à une époque, mais... Il n'y a pas de raison qu'il y en ait maintenant. Alors là, ce que je regarde aussi, c'est dans le sol, parce que, évidemment, plus l'humidité doit être dans le sol. Donc il faut regarder le mycélium. Si elle n'a pas assez d'humidité par là, elle peut très bien aller chercher le long du mur, théoriquement on devrait voir, et aller dans le sol. On a aussi un autre ustensile qui sert beaucoup pour le termite, mais aussi pour la mérule. C'est le poinçon. Le poinçon, oui, permet de vérifier l'état de dégradation du bois. Et si le bois est en bon état, évidemment, le poinçon ne pénètre pas. Si l'humidité est comme là, ça pénètre. Et on voit des dégradations. Donc là. Alors que le bois est encore bien sain, mais... Un peu moins, mais...
C'est votre outil principal, en fait, ça.
Le poinçon, ah oui, hein, enfin, avec la lumière, ouais. J'ai une loupe aussi.
Ouais.
Et vous voyez l'échelle, enfin, il
ouais.
Enfin, y a...
Ouais.
Voilà, c'est l'outil minimum, oui. Effectivement, s'il y a eu une mérule une fois, théoriquement...
Il peut y avoir une mérule de fois.
Oui, bon, le mieux est quand même d'enlever complètement la partie contaminée. C'est sûr. Là, il n'y a aucun signe annonciateur de présence de mérule. Loin de là. Hein.
Ok.
Alors que de l'autre côté, là, oui,
voilà,
effectivement. Voilà, vous avez donc coupé juste les solives et vous avez remplacé les solives qui étaient pourries par... voilà. Et par contre, ce bout-là, là...
Donc là, qu'est-ce que vous voyez ?
Un champignon. Je ne peux pas affirmer que ce soit mérule, mais par contre, effectivement, il y avait un champignon là qui a été enlevé.
Ouais.
Bon, il reste encore des parties du corps fructifère du champignon, là. Pour l'instant, c'est juste constatation.
Ouais.
Tout va bien.
Tout va bien.
La maison ne va pas s'écrouler tout de suite.
Non. Bon. Alors là, non. Mais ça, bon, attendez. Alors là, nous, le travail, attention, consiste à constater la présence ou non de champignons ou d'insectes xylophages. Mais après, évidemment, qu'il faut se diriger vers un professionnel du traitement qui, lui, est plus habilité à répondre aux demandes que vous voulez, c'est-à-dire à savoir ce qu'il faut faire exactement.
C'est un autre métier, quoi.
Voilà, exactement.
Vous avez donc découvert le vaste monde des nuisibles du bâtiment avec moi dans cet après-midi avec ce diagnostiqueur que nous avions rebaptisé pour l'occasion Monsieur Merul avec beaucoup d'affection. C'est l'heure pour moi de vous présenter, tatam tatam, roulement de tambour, la fiche biologique de la Merul. Cette mérule dite pleureuse s'appelle en latin, dans son petit nom botanique, Serpula lacrimans, qui est du coup exactement la traduction de son nom. C'est un champignon de type basidomycète, et ça nous fait une belle jambe, et possède, puisque c'est un basidomycète, un sporophore, qui est donc l'appareil fructifère, qui peut produire et libérer des spores. Ces spores peuvent voyager dans l'air et sous nos chaussures. Donc, il y a ce champignon avec sa grosse partie visible, gélatineuse, qui a sur les pourtours une écume blanche. Il se cache dans les recoins sombres et humides des maisons, de nos maisons, peut-être. Et il peut produire des spores, tout petits, petits et tout légers, qui peuvent voyager de manière invisible pour donner naissance à d'autres champignons, plus loin, dans d'autres endroits. En plus de tout ça, le champignon a un mycélium. C'est lui qui perle avec ses petites gouttelettes d'eau qui lui donnent ce nom de lacrimance, mérule pleureuse. Elles ont un aspect plus cotonneux et permet au champignon de s'approvisionner en eau à plusieurs mètres de distance du corps même du champignon, en gros, de continuer à s'approvisionner en eau, même si la source d'humidité d'origine a été tarie. Ce mycélium, il peut digérer les ions de calcium et de fer qui sont contenus dans le plâtre, dans les briques et dans la pierre, qui permettent aux champignons de faciliter son travail de destruction du bois. Ça permet aussi, accessoirement, aux champignons de se frayer un chemin pour voyager partout au travers des murs de nos maisons et du coup de trouver sa voie vers nos intérieurs. Ce champignon, finalement, c'est à la fois une menace fantomatique, discrète et insaisissable. Elle s'introduit partout avec ses spores. Et à la fois, c'est une menace colossale à la Goliath, capable de digérer les maisons, littéralement, et de les mettre à terre avec son mycélium. Pour s'embarquer sur les traces inquiétantes de ce champignon de la pénombre, je propose ce son énigmatique de The Orchard Enterprise qui s'appelle, si justement nommé, Concerning Others. Thank you. Nous sommes toujours sur Radio Escapade et nous nous embarquons pour suivre l'histoire de cette outre qu'est le champignon de la mérule. Cette histoire, elle commence, comme pour beaucoup de champignons, dans les sous-bois d'une forêt. Là, les scientifiques y discutent. Mais en 2012, ils se mettent un peu d'accord. Il ressort d'une étude comparant la génétique des mérules de la planète, qui est réalisée par M. Havard Kaoserud, si je prononce bien, et nombre de ses collègues avec lui. Il résulte donc de cette étude que les forêts où tout commence pour la mérule seraient celles des vallées de l'Himalaya. Là, la mérule, elle vit dans les forêts. Elle y a un rôle de décomposeur du bois, qui permet de boucler la boucle du cycle du carbone et de cliner les sols des forêts, slash créer l'humus des forêts. Donc, je m'explique. Il y a du carbone dans le CO2 de l'air. Les végétaux synthétisent le carbone de l'air pour faire du végétal, soit du carbone solide. Ensuite, il y a les décomposeurs, comme par exemple la mérule, qui libère le carbone solide des végétaux morts en carbone gazeux dans l'air. Voilà. C'est le cycle du carbone, c'est le cycle éternel des molécules chimiques de l'univers. Bon, il y a 3 ou 4 siècles par rapport à aujourd'hui. Dans ces forêts himalayennes, il y a 2 ou 3 individus de cette vaste population diversifiée de champignons méruliens qui ont commencé à se diffuser à travers la planète. Donc ça, c'est les indices génétiques qui nous le disent. Et nous, avec ça, on se raconte des histoires. Donc, il y a 3 ou 4 siècles, l'action de certains humains a permis quelques introductions ponctuelles, mais extraordinairement efficaces, de ce champignon à l'intérieur des voies de circulation du bois utilisé par ces mêmes humains. Là, la génétique, elle ne permet pas bien de raconter la suite de l'histoire. Mais l'anthropologue Anat Singh, qui affectionne tout particulièrement les champignons, raconte que c'est l'armée britannique qui aurait emporté ce champignon par accident sur ses navires lors de sa conquête de l'Empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. L'histoire que je raconte vraiment, c'est donc l'histoire de ces quelques individus de mérule, sélectionnés par des critères comme le hasard des rencontres, l'activité coloniale, les routes commerciales. C'est donc l'histoire de ces quelques individus qui sont sortis des forêts de l'Himalaya pour devenir des compagnons de route des humains. Dans ses efforts pour faire tenir son empire, la Grande-Bretagne a mangé ses forêts. Et pour construire ses bateaux, elle est en flux tendu pour avoir du bois de construction. Les chantiers navaux utilisent le bois disponible. Et c'est du bois vert. C'est du bois encore humide. C'est du bois qui plaît à la mérule. Mérule qui peut donc vivre sur les bateaux malgré le sel de la mer et se propager sur les mers. La mérule devient une calamité nationale pour les Anglais. On peut citer quelques célèbres victimes de la mérule. Il y a, pour commencer, l'un des bâtiments du Mayflower, qui a dû faire demi-tour, menacé par la mérule, de faire naufrage en plein océan Atlantique. Ces rebelles anglais-là ne seront pas partis fonder les États-Unis d'Amérique libérés du joug des Anglais. Il y a cet autre bâtiment anglais, le Formidable, 110 canons, qui est digéré en quelques semaines par le champignon après sa mise en eau. Mais surtout, il y a l'épique et dramatique destinée du Victory, le fameux navire de l'amiral Nelson. Il est mis à l'eau en 1765. Il retourne en cale sèche quelques mois plus tard pour changer des pièces de bois pourries par la mérule. En 1787, puis en 1800, il faut pratiquement tout changer, toutes les pièces. Elles ont été mangées par la mérule. Ce bateau a coûté plus de 6 fois le prix de sa construction en coûts de réparation. Durant la bataille de Trafalgar, Le Victory permet à l'Angleterre de faire plier les flottes espagnoles et françaises et asseoir définitivement la domination de la flotte anglaise sur les océans de cette planète. Mais la Mérule, elle continue de détruire le Victory. À Portsmouth, où il est ramené après sa victoire, il est déclaré monument national. Mais il se désagrège petit à petit dans le port. Il ne navigue plus et du coup, il y a encore moins de circulation d'air. Et la Mérule, elle prospère encore plus. Les Anglais essayent de saver ce grand héros de la bataille de Trafalgar. Ils allument des poêles dans les cales pour sécher le bâtiment parce qu'ils ont commencé à comprendre qu'il y avait un lien entre l'humidité et le développement de cette pourriture. Mais les poêles font de la vapeur qui font s'accumuler de l'humidité sous l'entrepont et la Mérule, elle prospère. Il y a un inventeur qui va proposer un remède miracle. Il va faire exploser une partie du bateau. Il y a 6 morts et 14 blessés. Au bout d'un moment, le Victory finit par se désagréger au fond de l'eau. Et d'aucuns racontent que l'Angleterre n'aurait jamais pu disputer un deuxième Trafalgar parce qu'elle avait perdu l'autre bataille, la bataille contre la Mérule. Bon. En 1863, la bataille de l'Angleterre contre la Mérule, elle commence à prendre fin. C'est le premier cuirassé en fer, du métal pour mettre fin à la Mérule. Et voilà, c'en est fini. Mais un autre levier de l'empire colonial britannique et des autres puissances occidentales pour communiquer, asseoir leur puissance créer un monde connecté, gouvernable, eh bien, c'est le chemin de fer. Et ces kilomètres et kilomètres de traverses de bois qui traversent des continents. Et la Mérule, elle continue son voyage. Après ce petit récit de l'adolescence de la Mérule, sortie de l'Himalaya pour prendre la route des mers, je voulais vous faire écouter The Cramp avec leur morceau de Garbagamen. Garbagamen? C'est parti. I'm sur Radio Escapade et la Mérule, après s'être servie de la flotte anglaise, puis des flottes du monde occidental pour se répartir sur la planète, a finalement été expulsée du monde de la marine pour se retrouver réfugiée dans les intérieurs calfeutrés de nos maisons. Les populations de Mérule sont particulièrement homogènes entre l'Europe et l'Amérique du Nord, qui étaient ces 400 dernières années plutôt connectées. La présence de Mérule dans les forêts tchèques, qui ont été remarquées en début de cette émission, sont donc en fait sûrement un des rares cas de féralisation de la Mérule. La nature férale, c'est le domestique ensauvagé. C'est donc l'histoire d'un yo-yo. La Mérule, elle se serait échappée des forêts himalayennes en s'embarquant dans les navires de la civilisation anglaise, puis se serait réfugiée dans les maisons où elle se serait de nouveau échappée pour reprendre place dans les écosystèmes forestiers de Tchécoslovaquie. Il existe des Mérules aussi présentes dans les forêts californiennes. Bon, et bien pour celle-là, les généticiens disent que ce serait peut-être une autre variété, peut-être endémique, en tout cas sûrement beaucoup moins dangereuse. On la rencontre beaucoup moins dans les bâtiments. Après cette grande conquête, du coup, la Mérule, elle vient se tapir dans l'ombre calfeutrée de nos intérieurs. Elle rejoint la grande famille des nuisibles du bâtiment, cette terminologie de nos formulaires occidentaux. Cette grande famille semble avoir eu des membres dans son équipe depuis que les humains construisent. La Bible, par exemple, parle de la lèpre des maisons. Et on soignait cette lèpre par le feu. Cette maladie de la maison qui punit ou marque le propriétaire se rapporte au registre de la souillure qui tâche. Et il faut s'en débarrasser par le feu et le rituel de purification. Le champignon, c'est alors le mal. Et parfois, encore aujourd'hui, quand on parle de Mérule, eh bien, on en parle comme d'un sujet tabou, un sujet honteux. Et comme s'il en venait de la responsabilité du propriétaire d'avoir cet étrange animal, enfin, cet étrange être tapis dans l'ombre de sa maison. Il y a d'autres champignons lignivores qui se nourrissent du bois. Et il y a des insectes xylophages qui se nourrissent donc du bois, dont on connaît par exemple bien les termites. Il existe d'autres, donc champignons et insectes, plus locaux, qui font des œuvres similaires à celles de la Mérule. Ouais, mais la Mérule, elle fait juste un peu plus peur. Pas tellement parce que son pouvoir de destruction est supérieur à celui des autres, c'est surtout son pouvoir de résister. Et donc de pouvoir réapparaître, et donc d'être indécrottable. C'est ça qui la rend si terrible. On a vu comment la Mérule était le marqueur des déplacements de ces humains qui se sont mis à coloniser la planète. Et bien aujourd'hui, la Mérule, c'est aussi un marqueur de nos changements de pratiques, et notamment des évolutions des pratiques architecturales. D'après les données que je suis très studieusement allée chercher sur l'Institut technique forêt cellulose bois construction ameublement, qui a publié en 2012 des données nationales, nous pouvons voir que dans les Cévennes, où j'enregistre aujourd'hui cette émission, et où le climat est encore très méditerranéen, donc très sec, l'indice de Mérule est inférieur à 0,4%. Dans le Berry, où moi j'ai rencontré ce champignon, l'indice de Mérule estimé à inférieur à 5%. En Bretagne, par contre, où le climat est océanique, doux et humide, l'incidence est entre 50 et 80% des communes touchées. Et le climat ne peut pas tout expliquer. Alors, je me suis fendue d'une petite escapade en Bretagne. Je suis allée parler de Mérule avec mes micros. J'ai rencontré un autre diagnostiqueur de Mérule, et aussi un couple de, disons, un couple de sinistrés de la Mélerule. Et je vous laisse avec eux.
Nous, la Mélerule, on ne connaissait pas, puis ce n'était pas dans les diagnostics à faire. Donc, on ne connaissait pas du tout. On a fait refaire quelques petites choses dans la maison. Donc, on avait pris une architecte d'intérieur. Elle a tiré un bout de placo et puis elle me dit « ça, c'est de la Mélerule ». Mais bon, moi, je n'y connaissais rien. Donc, elle a fait ce qu'il fallait pour traiter toute cette partie-là. D'ailleurs, c'était ici. Avant, il y avait des boiseries tout le long du... Donc, et ça tenait, on s'est dit, il y a de la Mélerule, s'il y en a encore, c'est pas très grave. Et puis après, on a voulu refaire des travaux pour faire une terrasse ici, et puis le sous-sol étant très humide, on a demandé à ce que l'architecte qui nous faisait ça voit ce qu'on pouvait faire pour l'humidité au sous-sol. Il a dit, si c'est humide comme ça, il y a de la Mélerule. Donc, il faut traiter. On ne voyait rien, donc. Moi, je pensais absolument pas que c'était aussi abîmé que ça.
Oui, non, mais c'est très vicieux, c'est invisible en général, parce qu'il faut de l'obscurité. Donc, l'obscurité, ça veut dire... C'est pour ça qu'ici, ils appellent ça la maladie des Parisiens. C'est parce que qu'est-ce que vous faites quand vous achetez une maison, ici, un Parisien, il change la façon dont la maison respire. Et si vous changez la façon dont la maison respire, vous allez transformer la maison, la façon dont la circulation de l'air va se passer dans la maison. Et c'est ça qui provoque. Donc ce que font les gens, c'est qu'ils mettent, pour faire propre, ils mettent des placos, ils changent les huisseries, etc. Et qu'est-ce qu'elle fait la maison? Elle ne respire plus de la même façon. Et si vous ne respirez plus de la même façon, il n'y a pas du tout de... Donc l'humidité commence à se mettre à certains endroits qu'elle n'était pas avant. Donc le fait de construire une maison qui est bien fermée, on crée les ingrédients pour que la Mélerule se développe. C'est pour ça qu'il faut faire attention.
Et vous avez le profil type des Parisiens?
On est des Parisiens.
Ouais.
C'est peut-être pas le fait de s'absenter qui est dangereux, c'est le fait de ne pas laisser la maison dans les meilleures conditions. Maintenant, ouais, si on y va tous les 6 mois, on est bord de mer, c'est une vieille maison, elle est ventilée comme elle peut, ouais, il y a plus de risques. Il y a plus de risques. Mais un champignon ne s'installera pas s'il n'a pas les conditions. Donc, les gens disent, ah ouais, mais on a le voisin, on va laisser Orgel, on fait ci, on fait ça. Mais le champignon, il aime bien une température douce, lui. Donc... Il aime un taux d'humidité, mais il n'aime pas un taux d'humidité trop élevé. Donc ça, en tous les cas, c'est pas parce qu'on y va peu qu'on a plus de risques. Si on y va peu, qu'on met hors gel et qu'on ventile peu, même si on y vit, à la limite, on aura le risque. Une personne âgée qui ne va plus au premier ou deuxième, il y a le risque. Maintenant, c'est vrai que si on y va régulièrement, on ouvre les portes, les fenêtres, on ventile, déjà, c'est le béaba, hein.
C'est pas comme du contrôle non destructif. Il faut détruire quelque chose pour voir. C'est-à-dire que si vous avez une double cloison, il faut aller regarder derrière la cloison. Parce que comme ça, vous ne verrez rien. Et au moment où vous le voyez, si vous le voyez, c'est déjà catastrophique.
Mais il faut connaître un peu. Je trouve qu'il faut de l'expérience, c'est très difficile à déceler. Et parfois, c'est pas décelable. Quand il y en a sur la charpente et que la charpente n'est pas visible, il faut trouver un signe à l'intérieur. Et il n'y en a pas toujours. Le problème de ces champignons, c'est qu'ils ont tendance à à se développer dans des zones qui sont peu accessibles.
Ouais.
C'est très rare de voir le carpophore, le champignon lui-même. On ne voit pas ça. On voit des signes d'une présence d'un champignon. Parfois, ils sont très visibles, mais on peut l'avoir derrière un doublage. Et le champignon va faire son œuvre, et puis on ne verra pas. Mais il n'y a pas que les maisons secondaires. Il y a des gens qui en ont, qu'on en découvre chez eux, alors que c'est leur maison d'habitation. Donc...
Nos voisins, ils avaient refait toute leur maison.
Moi, je connais des gens, elle est décédée il y a quelques années maintenant. J'avais découvert un gros cas dans sa baraque.
Et puis avant les 10 ans...
8 ans, 8 ans après.
8 ans après, ils sont aperçus qu'il y en a, que ça recommençait.
Je lui ai annoncé doucement que j'avais un problème dans la maison. Ils ont fait traiter, le fils qui vit aux États-Unis a voulu faire par le mec qui était le moins cher. Ah, il était pas cher.
Ils ont vu sous les plaintes une espèce de truc marron. Pas des plaintes comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Donc, ils ont
défait la plainte et ils se sont aperçus que derrière, c'était bourré de merveilleux. Alors qu'ils avaient tout traité, tout. Donc ils ont recommencé.
Mais ils ont repayé trois fois, je sais pas, deux, trois ans plus tard. Elle est décédée derrière et. Quand la maison a été vendue, l'évolution du champignon était terrible. Ils ont dû payer 10 000 la première fois et 30 ou 40 la deuxième.
Alors, voici pour un petit aperçu des nouvelles aventures de la mérule en Bretagne. Et comme on l'entend transparaître à travers... ces histoires rapportées par mes interlocuteurs bretons, le climat ne peut pas être le seul responsable du bonheur de la mérule dans cette région de l'ouest de la France. Il y a aussi un peu l'histoire de l'immobilier de la Bretagne. Ça se passe, je crois avoir compris, dans les années 70. Dans une savante combinaison entre l'exode rural breton poussé par l'industrialisation de ces campagnes, avec le fameux modèle du port, et l'envie de grand air des nouvelles classes moyennes urbaines, qui fait exploser l'achat des maisons secondaires en Bretagne. Mais le jeu immobilier ne fait pas tout. Il y a aussi ces maisons toutes lisses, à angle droit, dessinées sur des logiciels 3D, qui pourrait servir de cadre de décor à un catalogue Ikea. Enfin, à l'intérieur, puisqu'à l'extérieur, elles sont encore habillées de pierre, de granit rose, tellement dans leur jus. Et du coup, en fait, c'est dans cette friction entre ces intérieurs si polissés et l'architecture bretonne. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'architecture traditionnelle bretonne, elle n'a pas de fondation, elle est... Les maisons, elles sont vraiment posées sur le sol. Et puis, le sol autour, il n'est pas drainé. Bon, dans une région qui est connue quand même pour sa grande humidité. Et puis bon, à l'époque, il n'y avait pas de double vitrage. Donc voilà, l'architecture traditionnelle bretonne, elle donne des maisons humides. Et les nouveaux habitants, ces fameux Parisiens dont parlent mes interlocuteurs, eux, ils sont à la recherche d'un petit nid douillet. Et du coup, ces maisons traditionnelles bretonnes, elles auraient été rénovées avec des produits prêts à l'usage, pensés par l'industrie du bâtiment. Parce que ça réduit les coûts, parce que ça garantit plus de confort. Bon, peut-être que ça nous fait un peu perdre en autonomie et de visibilité sur les matériaux, leur qualité, leur utilisation. Et en tout cas, l'entité vivante Mérule, elle a proliféré dans cette friction entre... les différences de pratiques architecturales. Et la mérule, c'est devenu un marqueur en Bretagne, une espèce de marqueur net dans le changement des pratiques architecturales. Débusquer la mérule dans ces maisons, enfin dans les interstices de ces maisons, dans les espaces oubliés que personne ne veut voir, sombres, c'est un travail d'exploration, certes, dans les entrailles elles-mêmes de la maison, mais aussi du coup dans les histoires des trajectoires, des maisons elles-mêmes et des matériaux qui les constituent. Peut-être que si ce champignon mérule est si terrifiant, c'est peut-être parce que nous l'avons rendu terrifiant. Peut-être que c'est notre manière de nous balader sur la planète en conquérant qui est terrifiante. Peut-être que ce sont les soins ou le manque de soins qu'on apporte à nos intérieurs qui sont terrifiants. Finalement, je me suis dit que ce champignon mérule n'avait peut-être rien demandé à personne. les diagnostiqueurs du bâtiment spécialisés dans la mérule que j'ai rencontrés m'ont fait penser, eux, à des désorceleurs qui venaient délivrer les maisons et les habitants de ces maisons de la terrible menace de ce champignon, enfin, terrible menace qui avait été construite par et l'activité humaine est rendue si terrifiante par eux-mêmes. En l'honneur de ces diagnostiqueurs de mérules, de ces désorceleurs, je voulais vous quitter en musique sur la musique de Ghostbuster, la bande originale. C'était le récit de la trajectoire de notre compagnon champignonesque Mérule dans son épopée planétaire. Elle proliféra avec l'aide de la marine anglaise et menaçait aujourd'hui encore l'intérieur de nos maisons. Voilà, c'était le premier épisode de l'émission Qui sème le vivant, récolte l'urticaire. À bientôt sur Radio Escapade.
Qui sème le vivant, récolte l'urticaire. Qui sème le vivant, récolte l'urticaire.